Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, les pieds sur terre, quartier d'été, c'est maintenant. Les Français ont-ils des préjugés? C'est la question que nous posons cette semaine. Aujourd'hui, le racisme au quotidien et à la première personne, c'est jusqu'à 15h sur France Culture.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Quand je suis arrivé à mon travail l'année dernière, je commençais mon alternance. Quand j'ai dit que je venais de Sarcelles, alors là, oh, Sarcelles et tout, c'est chaud, c'est... Ah, t'es un voyou, toi. Il y a même un des employés qui m'a dit « Wesh, mon frère, il a mis sa casquette à l'envers. » Enfin, du genre, je suis un racailleux, quoi. Enfin, c'est un gars, il a une quarantaine d'années. Je sais pas c'était quoi le but de son intervention, mais bon, personnellement, j'ai pas prêté attention. Ah ouais, c'est le même gars, j'allais me changer au vestiaire, au travail, et il y avait pas de lumière. Et il a vu, j'étais là, il me fait « Oh, t'es où? Je te vois pas. Oh, t'es où? Je vois que tes yeux. » Bon, j'ai pas répondu, j'ai essayé dans son délire, et puis après, la lumière s'est allumée, il rigole devant moi comme ça. Je le regarde, sérieux. Ça, par exemple, ce genre de blague, c'est déplacé. Je suis désolé, ça se dit pas, ça. C'est pas des blagues marrantes.
Depuis 43 ans que nous vivons en France, j'ai déjà eu des propos racistes, bien sûr. Au travail, par exemple, avec des collègues, j'avais 20 ans. Oui, une collègue qui m'a traité de sale arabe. Je me lavais les mains dans un lavabo, puis elle arrive, elle met ses mains au-dessus de mes mains, donc sans attendre que j'ai fini, et puis je lui demande de me laisser finir, et là, elle me dit sale arabe. Voilà, tout simplement, parce qu'elle avait envie de dire sale arabe, et elle cherchait un prétexte pour le dire, je pense. Donc je suis arabe, bien sûr, je suis fière de l'être, mais je ne suis pas sale arabe.
Cela se passe ici et maintenant, un peu partout en France, mais pas non plus tous les jours, ni à chaque instant et à tous les coins de rue. En réalité, les insultes racistes, incitations à la haine raciale, blagues immondes et autres dérapages plus ou moins contrôlés semblent s'être banalisés et décomplexés, en suivant entre autres l'exemple donné par des ministres, députés et personnalités publiques qui donnent à penser que les Français sont à l'image de leurs représentants, ce qui n'est heureusement pas le cas. Tous, citoyens ou représentants, se défendent avec le même argument de liberté d'expression ou du droit à rire de tout. La loi rigole moins, heureusement, et condamne avec quelque sévérité les incitations à la haine raciale. Elle interdit les discours de haine et autres appels, directs ou indirects, à la violence contre certaines catégories de la population. Pour l'heure, donc, nous sommes dans la vie des gens, à l'embauche, à l'entrée des boîtes de nuit, dans la rue et sous le voile, chaque jour, au quotidien, au bout du monde ou au coin de la rue. Cela se passe jusqu'à 15h dans les pieds sur terre, quartier d'été. Les Français ont-ils des préjugés? La réponse aujourd'hui est peut-être bien que oui.
J'ai beau être blonde aux yeux bleus, je porte un voile. Voilà, je suis musulmane convertie depuis une dizaine d'années. Et donc je porte le voile qu'on appelle aussi hijab. Donc c'est un morceau de tissu d'à peu près, je crois qu'il doit faire 1m50, que je plie en triangle, que je mets autour de mon visage, que je dépose comme ça au-dessus de ma poitrine et je laisse paraître mes mains et mon visage. Et c'est comme ça que je m'habille, voilà, avec une robe noire parce que ça amincit. C'est vrai en plus. On appelle ça aussi une abaya. C'est une robe en fait assez ample qui cache les formes. Et mon voile d'aujourd'hui est dans les tons beige, assorti à mon sac. Voilà.
Donc vous êtes blonde aux yeux bleus.
Oui, oui, je suis d'origine gauloise, flamande. Mes parents effectivement sont d'origine française, franco-française, avec des racines du nord de la France. Effectivement, au tout début de ma conversion, ça choquait énormément les gens parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes voilées à l'époque. Donc les gens ne connaissaient pas les convertis et ça les étonnait. Et on prenait soit pour une kabyle ou une personne, une turque aussi. On ne pouvait pas concevoir que je puisse être française et musulmane en même temps. Donc on me disait souvent « rentre dans ton pays », ça c'était le genre de choses que j'entendais. Je dis « oui, mais je fais quoi? Je fais comment? Je prends le bus, là je ne peux rien faire d'autre ». Mon pays, c'est ici, donc forcément, je ne vois pas où m'exiler.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui vous est arrivé dernièrement ?
J'ai plusieurs anecdotes, mais celle qui m'a le plus choquée, c'était avec mon petit garçon et moi, donc on marchait dans la rue. On allait traverser la route, et donc le petit bonhomme est devenu rouge. J'ai dit à mon fils, non, ne traverse pas, fais attention. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui nous regardait. Et là, je le vois traverser, venir à notre rencontre, et il me regarde, mais avec un regard d'une froideur qui m'a vraiment glacé le sang. Et il m'a dit, pourquoi vous ne l'avez pas laissé traverser ? Je dis, comment ça ? Il me dit, ça en aurait fait un de moins. Et là, j'ai bafouillé quelque chose. J'étais vraiment choquée parce qu'il était sérieux, il ricanait comme ça. Et il regardait mon petit bout de chou de 4 ans et demi en me disant, ça en fera un de moins, un musulman de moins, un arabe de moins, parce que c'est vrai qu'il est typé, enfin on pourrait croire qu'il est maghrébin alors qu'on marie d'Afrique de l'Est. Mais voilà quoi, c'était choquant. J'ai traversé la rue, j'ai éclaté en sanglots. Mon fils m'a dit pourquoi tu pleures maman ? Je dis il y a des gens qui nous aiment pas. J'ai pas pu dire autre chose à ce moment-là. Je voulais même pas lui expliquer parce qu'il pouvait pas comprendre. Bon après la vie continue, faut continuer à sortir, à vivre. Mais là sur le coup j'étais choquée et j'avais envie de lui cracher dessus, j'ai envie de l'étrangler, j'avais envie de le. Mais c'est la frustration, je pense, qui prend le pas sur tout le reste. Une grande frustration de ne pas pouvoir lui dire non, c'est faux, j'ai le droit d'être celle que je suis en fait. Et une grande résignation à la fin aussi. Tant pis, c'est comme ça, il faut faire avec. On se sent nul de ne pas être capable de répliquer verbalement. Puis après, on pleure parce qu'on se dit mince, il y a des gens qui veulent vraiment qu'on meure. Moi, tout de suite, j'ai des images qui me reviennent en tête de mes cours d'histoire avec le peuple juif qui a été massacré. Je me dis mince, il y a des gens qui croient encore qu'il y a une race supérieure à une autre, que les gens qui embrassent telle ou telle religion méritent d'être insultés au mieux, au pire, exterminés. Voilà. Et c'est blessant, vraiment blessant.
Je suis martiniquais guyanais. Je suis né à Sarcelles dans le 95, dans la banlieue nord de Paris. Avec deux amis à moi. On devait aller en boîte, donc on a pris nos préventes sur internet et donc on s'est rendu à cette boîte. On fait la queue, on arrive, on se présente, donc on sort nos préventes avec nos cartes d'identité parce que c'est ce qu'il fallait présenter pour pouvoir rentrer. Et les videurs, ils nous disent pour nous c'est pas possible quoi. Le gars, il a même pas pris la peine de regarder notre carte d'identité et ma prévente, il a même pas pris la peine d'au moins regarder si c'était ma tête sur la carte d'identité. On a fait deux pas, on est arrivé devant les videurs, ils nous ont dit pour vous c'est pas possible. Il y avait des groupes de six gars qui rentraient. Enfin voilà, il n'y avait vraiment aucune raison de nous recaler. Nous, on était trois, on était habillés correctement. C'était vraiment pour notre couleur. C'était comme s'ils nous dénigraient. Enfin, je sais pas, la façon dont... Ouais, pour vous, c'est pas possible. Quoi. De toute façon, c'était ça, on s'est fait dénigrer. Et on était les seuls de couleur. Dans toutes les personnes qui attendaient, on était les seuls de couleur. Justement, ça m'a mis mal à l'aise quand on est arrivé. J'ai dit, mais dans quoi on s'embarque, là ? On est les seuls gens de couleur. Franchement, je vais pas me sentir à l'aise. Et j'ai un ami qui me disait, mais non, allez, on s'en fout, on a nos préventes, on va rentrer. Il était sûr de lui. Ben là, pour le coup, moi, j'étais un peu choqué. J'étais un peu énervé, donc je les ai traités un peu, j'ai dit sale raciste. Donc il y a un des videurs qui me dit, mais c'est pas de notre faute, on a des instructions. Après, j'ai dit, ouais, je sais que c'est pas de votre faute, que ça, c'est la faute des organisateurs. Donc il y a un des videurs qui nous a dit, ouais, on va vous rembourser. Donc moi, je pensais qu'on allait pouvoir quand même rentrer dans la boîte pour se faire rembourser quand même, c'est la moindre des choses. Mais en fait, ils nous ont remboursé comme ça sur le trottoir, comme si on était des chiens, quoi. Il y avait une cinquantaine de personnes qui faisaient la queue devant tout le monde. Déjà, tout seul, c'est un peu la honte. Pour ma part, j'avais tellement honte que j'ai baissé la tête, j'ai pas regardé. Franchement, ça a pourri notre soirée. On s'est jamais fait recaler avec une prévente. Une prévente, justement, c'est comme une assurance de pouvoir rentrer dans la boîte, justement. Sachant que c'est plus cher que le prix d'une entrée quand on la prend sur place. On s'est fait rembourser 22 euros et la soirée était à 24 euros, je crois. On a perdu de l'argent, en gros.
Je représente un collectif qui s'appelle le Collectif des combattants pour le logement à Paris. Nous avions rendez-vous avec la directrice à l'OPAC, c'est l'office pour le logement dans le social, qui se trouve dans le 5e arrondissement. Nous sommes arrivés à l'accueil de l'OPAC. Nous étions 6 personnes. Le vigile nous demande ce qu'on veut exactement. Donc, on signale bien notre rendez-vous avec Madame Roth pour 11h. Donc, nous avons été heurtés, refusés d'accès, sous prétexte que nous n'avions pas rendez-vous. Alors que nous avions un document où elle nous a marqué le jour du rendez-vous. Nous avons insisté, une des personnes, des membres du collectif, hein, qui essaye d'ouvrir la porte de l'OPAC pour rentrer, un des vigiles, je sais qu'il est algérien, referme la porte sur son nez. Et lorsqu'elle lui dit « nous avons rendez-vous », il l'insulte avec vulgarité en disant « je m'en bats les couilles ». De toute façon, moi, vous, les Arabes, je vous écrase tout en nous montrant de la main et en piétinant du pied. Comme quoi, les Arabes, on les écrase comme ça. De quel droit il se met à dire « je vous écrase tous les Arabes en piétinant du pied, comme ça je vous écrase ». Il a une haine, il est rempli de haine ce jeune, c'est grave. Son chef l'a pris par la veste, il l'a fait rentrer à l'intérieur parce qu'il a vu que c'était grave, des propos comme ça. Puis nous avons appelé la police qui est intervenue et donc nous avons été au commissariat du 5e déposer plainte. Au commissariat, on a hésité de prendre nos plaintes. Parce que pour eux, ce sont des Arabes qui nous ont insultés, donc ce n'est pas condamnable par la loi. Donc, comme j'ai bien insisté, j'ai bien fait comprendre que un Arabe n'a pas insulté un Arabe. C'est condamnable par la loi également. Finalement, ils ont fini par prendre nos plaintes. Ça a été classé un mois après, sans aucune enquête. Donc, nous avons fait recours avec le MRAP. Et là, c'est en cours. Et depuis, nous sommes maltraités à l'OPAC. Et tout ça pour nous dissuader de faire les demandes de nos logements. Des vigiles qui sont algériens, je pense que c'est voulu pour mieux repousser les Arabes qui viennent demander un logement. Puisqu'ils ont la même mentalité entre Arabes, un vigile arabe sera mieux attaqué un demandeur de logement arabe. Pour mieux le dissuader, je pense. Je pense que je peux expliquer ça comme ça.
Un jour, j'étais au téléphone avec une personne concernant donc un problème de santé de mon petit garçon. Donc, il faisait nuit, j'étais là en train de téléphoner.
Vous étiez à l'extérieur ?
Oui, j'étais à l'extérieur devant l'hôpital, en fait. On attendait des résultats pour le lendemain. J'étais très inquiète, donc j'avais vraiment pas la tête à regarder autour de moi. Et j'ai senti un homme qui me regardait avec insistance depuis un petit moment. Je me suis dit, tiens, il me regarde beaucoup ce gars-là, c'est bizarre. J'étais concentrée dans ma conversation, j'ai senti quelqu'un derrière moi, et j'ai senti quelque chose de chaud comme ça derrière la tête, pas loin de l'oreille, à 5 cm de l'oreille. Et je me suis retournée immédiatement, et j'ai vu ce type-là, comme ça, juste derrière moi, et qui est reparti. Et j'ai touché mon voile comme ça, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai senti un truc. Bon, puis j'ai continué, j'étais trop, trop inquiète. Je rentre chez moi, et là, je retire mon voile. Et là, je vois un trou dedans. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, j'ai fait le rapprochement immédiatement avec ce gars qui était... Bah, il fumait, en fait, pas très loin de moi. Oh, je me dis, c'est pas vrai, il a écrasé sa cigarette sur ma tête, quand même. Je me dis, mais si ça avait pris feu, si... Waouh, mais il y a vraiment un type qui a écrasé sa cigarette sur ma tête, sur mon voile. Mais pourquoi ? Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quoi la prochaine étape ?
Vous m'avez apporté ce voile que vous vous êtes fait brûler par une cigarette ?
Oui, je l'ai ramené. Ben, parce qu'en fait, je continue à le porter. C'est vrai qu'à chaque fois que je le mets, bon, je le plie d'une certaine manière à ce qu'on ne voit pas le trou. Donc il est assez voyant. Et voilà, on voit bien la marque de cigarette dessus, on voit bien le fait que ça a été fait très nettement, c'est pas un petit mégot qui m'est tombé sur la tête jeté d'un balcon, quoi. C'est clairement pchit, comme ça. Déjà, j'ai pas envie d'oublier ce qui s'est passé, et j'ai pas envie de jeter quelque chose... j'ai pas envie de le laisser gagner, c'est bizarre, c'est symbolique pour moi, en fait. Je veux le garder, et je veux m'en souvenir, et... J'ai envie de continuer à le porter parce que je l'aime bien, parce que j'aime beaucoup sa couleur. C'est aussi bête que ça. Il est prune, il est très joli. J'ai pas mal de vêtements de cette couleur-là, notamment un sac à main que j'aime bien. Et c'est vrai que j'aime bien coordonner les couleurs, ça c'est quelque chose, même mon téléphone est exactement de la même couleur en plus. Et je le porte parce que c'est vrai qu'on peut tellement rien faire, que c'est un tout petit geste de rien du tout, mais je veux pas me résigner. Donc effectivement, ne pas se résigner, c'est résister d'une certaine manière. Et la vie continue.
J'arrivais avec mon épouse des courses. J'ai garé ma voiture sur un emplacement de parking réservé aux handicapés, juste devant l'entrée de la cité. Pendant que je déchargeais mes courses, j'ai entendu mon épouse répondre à quelqu'un qui a dû l'interpeller. Non, on en a pour 5 minutes ou pour 2 minutes, le temps que je lui passe les courses et qu'elle rentre à la maison. Alors, moi étant penché sur la malle, j'avais pensé que c'était les représentants de l'ordre, quoi, parce que j'étais garé sur un emplacement qui était réservé. Et quand je me suis retourné, j'ai vu que c'était des employés de la régie de Paris Habitat. Donc moi j'ai dit, je vous gêne pas, vous pouvez rentrer, d'autant plus qu'ils n'avaient pas de camion ni de fourgon, c'est une petite voiturette, vous savez. Et la personne qui était, pendant ce temps-là, elle ouvrait le portail pour passer. Elle me dit, toi, sale con, ferme-la, ferme ta gueule. J'étais surpris. Et puis il a enchaîné, c'est-à-dire que c'était vraiment un déluge de paroles, quoi. Sale con, sale arabe, sale algérien, retourne chez toi en Algérie, etc. Feignant. Je suis resté quoi? J'en revenais pas. Je suis resté un moment sidéré, quoi. Vous savez, c'est surprenant quand même d'être agressé comme ça. Ma femme, elle a réagi. Elle lui a dit, mais pourquoi vous lui parlez comme ça? Il lui a dit, toi, ferme ta gueule, va te faire casser le cul. Alors là, moi, j'ai réagi, j'ai avancé vers lui. Ma femme m'a retenu. Mais lui, pendant ce temps-là, tout de suite, il est monté à côté du chauffeur. Et ils sont rentrés en trompe dans la cité. Sur le moment, je lui aurais arraché la tête, quoi. Je l'aurais bouffé avec mes dents. On a sorti les courses. J'ai accompagné ma femme dans l'allée. Et à l'allée, j'ai croisé quelqu'un de la régie. Je lui ai dit, excusez-moi, je voudrais parler à votre chef d'équipe. Il me dit, c'est moi, pourquoi faire? Je lui raconte l'histoire qui m'est arrivée. Il appelle la personne. Il lui dit, voilà ce qu'il raconte, monsieur, etc. Il lui a dit, moi, j'ai jamais rien dit ça, mais je ne vais pas adresser la parole à ces messieurs, mais moi j'ai explosé. Mais je lui ai dit, vous êtes un lâche. Si moi je vous dis que vous êtes un enculé, je le répéterai devant le bon Dieu que vous êtes un enculé. Et puis ma femme, elle disait au chef, là, elle lui dit, mais monsieur, j'étais présente. Il a dit toutes ces paroles. Il lui a dit, oh, vous comptez pour rien, quoi. Vous êtes avec un arabe, vous savez. Ça bouillonnait, je suis allé directement à l'antenne de Paris Habitat, qui gère le secteur. Ils m'ont dit, écoutez, faites un courrier, enfin, vous savez. Et je suis allé déposer une plainte au commissariat de la rue de Nantes, dans le 19e toujours. Et j'ai adressé aussi un courrier à la mairie du 19e, à la conseillère déléguée chargée des droits de l'homme. Je n'ai jamais eu de réponse, malgré mes coups de fil, etc. Aucun signe de vie, ça n'existe pas. Enfin, ça, c'est choquant, quoi.
Je voyais aucun critère qui permettait, aucun facteur qui permettait de nous faire regaler. Toutes les personnes qui étaient devant nous, elles passaient. Nous, on était droits, on avait nos préventes, on avait nos cartes d'identité, donc on avait tout ce qu'il fallait pour rentrer. On n'était pas sale, on ne sentait pas mauvais, enfin, je sais pas. Il n'y avait vraiment pas de facteur qui permettait de nous faire recaler.
Est-ce que les videurs vous ont dit clairement vous ne rentrez pas parce que vous êtes noir et arabe?
Non, ils ne nous l'ont pas dit. Mais de toutes les façons, ils nous auraient jamais dit ça. Ça se fait par sous-entendu, ces choses-là. Ça se dit pas directement. Parmi tous les groupes qu'on a vus, il n'y avait aucun blanc avec un noir, déjà. Donc déjà, ça, bizarre. On ne se sentait pas à l'aise. Enfin, moi, personnellement, je ne me sentais pas à l'aise. Ce n'est pas le fait qu'il n'y ait que des métropolitains. Ce n'est pas ça. Enfin, ça se voyait. Il y avait un décalage entre eux et nous. On n'est peut-être pas les bienvenus, quoi. On n'est pas de leur catégorie. Ça se sent, on n'était pas pareil. C'était des métropolitains, on dirait. Ils venaient tous du 16e et tout. Enfin, on n'est pas du même milieu, eux et nous. Ils ont grandi avec des codes qui sont pas les nôtres. Enfin, c'est différent. On a une autre façon de penser par rapport à eux. Moi, je pense que l'argent fait la différence quand même. L'argent, c'est... Ouais, c'est un certain pouvoir, on va dire. On se croit un peu mieux que les autres parce qu'on a plus d'argent. Enfin, voilà, quoi. Enfin, pour moi. Je me sentais pas à ma place parce que, ouais, peut-être je me sentais inférieur, je sais pas. Peut-être. Alors que moi, je pense pas, hein, mais bon. Eux, c'est ce qu'ils pensent, peut-être. Après, ça reste encore des préjugés. Donc, comme je dis...
Les préjugés de qui sur qui?
Bah, de moi sur eux, sur... C'est des pensées que j'ai eues et qui sont mauvaises. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais c'est un ressenti que j'ai eu.
Vous essayez de les corriger, ces pensées?
J'ai déjà pas mal changé. Hein, parce que avant, j'étais pas comme ça du tout. Enfin, ouais, j'avais vraiment une sale mentalité avant. Je crois que c'est depuis que j'ai déménagé en Anthony, en fait. Parce que d'ailleurs, la première chose qui m'avait choqué quand je suis arrivé en Anthony, c'est de voir un blanc traîner avec un noir. Ça m'avait trop choqué. C'est le truc qui m'avait plus marqué. Mon père, il nous avait ramené en voiture avec ma mère pour nous montrer justement où on allait habiter, tout ça. On n'avait jamais encore vu l'appart. Et donc, on arrive dans la ville et je vois un noir et il était avec un blanc en train de faire du vélo, tout. Ça m'a trop choqué. Non, Tony, c'est pas comme Sarcelles. En Tony, c'est majoritairement des métropolitains. Donc... À Sarcelles, c'est pas du tout ça. On est vraiment parqués. C'est vraiment, on met les Noirs avec les Arabes. On les parque dans une ville, dans un quartier. Et puis voilà, quoi, rester ensemble. Mais quand je suis arrivé à Anthony, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Parce que j'avais pas l'habitude de voir autant de personnes métropolitaines. Même si, bon, je sortais sur Paris, donc j'avais l'habitude d'en voir. Mais je veux dire, dans ma ville, quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup changé, ça. Enfin, dans nos têtes, on avait trop une sale mentalité. C'était les Noirs, on devait traîner avec les Noirs et Arabes, mais les Blancs, c'était... On traînait pas avec les Blancs, c'était la honte. Pour nous, ils étaient inférieurs. Ils étaient inférieurs au niveau des bagarres, des trucs comme ça. Le Blanc, c'était celui qu'on allait prendre, qu'on allait voler. Moi, j'ai jamais volé un Blanc. Je veux dire que c'était ça, dans nos têtes, c'était ça. Je pense qu'on pensait ça parce que du fait qu'on se fasse rejeter des fois, c'était comme une revanche, j'ai l'impression, dans nos têtes. Par exemple, le noir, il a subi l'esclavage, donc ouais, c'est un peu une revanche que maintenant ce soit notre tour, les patrons et puis eux, un peu les esclaves. Ben, les esclaves, entre guillemets, dans le sens où, voilà, ouais, t'es un blanc, je te parle pas, quoi, tu traînes pas avec moi. Tu mérites pas de traîner avec moi. C'était ça, quoi. C'était de la fierté mal placée d'ailleurs. Parce que j'avais pratiquement aucun ami blanc. Une vingtaine, une dizaine d'années, avec tout le métissage qui se fait, il n'y aura plus de ça. Il n'y a qu'à regarder dans les rues. Hein. Enfin, je veux dire, maintenant, je peux très bien fréquenter des noirs, des arabes, comme des blancs. J'ai des copains blancs, donc j'ai pas de problème avec ça. Ma copine, elle est blanche, donc j'ai pas de problème avec ça.
Souvent, je me dis, quand on me regarde de travers, j'ai quoi, il y a eu un reportage à la télé sur l'islam récemment. Je me dis, mince, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que c'est souvent par vagues successives. S'il y a eu un attentat, par exemple, souvent, les gens vont faire plus de réflexions à ce moment-là, parce qu'il y a une colère qui naît en eux, justement par rapport aux actualités, enfin, à ce qui peut se passer, aux événements qui peuvent avoir lieu. Par exemple, je sais que les propos racistes de Brice Hortefeux ont pu délier certaines langues. C'était quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Bon, moi, ça m'a fait éclater de rire parce que je prends ça toujours au second degré. Je me dis, mais bon, c'était quand même un ministre à ce moment-là de l'Intérieur. C'est un peu abusé, quoi. Je veux dire, c'est comme si on disait, c'est bon, les gars, allez-y. Vous pouvez vous lâcher, les Noirs, les Arabes, il n'y a pas de souci. Les musulmans, soyons fous. Je me dis non quand même. Alors après, je me dis peut-être que je psychote un peu. C'est peut-être un peu de la parano parfois. Alors on fait attention, enfin je fais attention moi personnellement de ne pas voir le noir partout, de voir le mal partout. Mais effectivement, je ressens vraiment en fonction de l'actualité une exaspération en fait. Comme si là je me balade dans la rue, j'exaspère les gens, j'ai rien à faire là en fait. Moi je vis en province, j'habite à 1h30 de Paris en train. J'ai déjà vu une fois une prière de rue, c'était le jour de l'Aïd effectivement. Il y a une mosquée pour une grande ville comme Rouen, une toute petite mosquée. Et les gens ont été obligés effectivement pendant l'espace de, je crois ça a duré peut-être 10 minutes, de prier dans la rue. Après les prières de rue c'est anecdotique. C'est comme le niqab, oh, c'est dur à dire, c'est comme le voile intégral. si au moins il y avait des mosquées pour les croyants, enfin pour les musulmans, pour aller prier correctement, décemment, je pense qu'il n'y aurait pas ces problèmes, d'une part. Et d'autre part, c'est monté en épingle, vraiment un événement qui peut exaspérer les riverains de ce quartier-là. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit d'une part dans toute la France. Et surtout, les médias s'en emparent comme si c'était une affaire d'État, comme si c'était toujours les musulmans, toujours. Oh, regardez ces méchants musulmans qui prient dehors et qui nous empêchent, nous, gentils Français, de circuler dans la rue. Non, il faut arrêter. Je pense que la France a toujours été un peu raciste. C'était un peu tabou. C'est du racisme bête et méchant, en fait. C'est quand on ne connaît pas, on a peur de l'autre. Donc, on va, comme les Noirs, on pensait qu'ils ne se lavaient pas. Ce genre de cliché atroce. Là, maintenant, ça y est, quoi. Je pense qu'on se dit, ça y est, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que je pense, bien profond, mais même si c'est pas beau à dire.
Now the flames, they follow Joan of Arc as she came riding through the dark. No moon to keep her armor bright. No man to get her through this very smoky night. She said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, quartier d'été. Les Français ont-ils des préjugés? Nous racontions quelques histoires de racisme au quotidien. Un reportage signé Pauline Mocor, réalisé par Julie Béressy avec un coup de main pour la rediff d'Alexandra Malka. Je précise que cette émission a été diffusée pour la première fois le 10 mars 2011. Au mixage, il y avait Laure Young Lancret et l'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner au MRAP, aux documentalistes d'actualité de Radio France et au blogueur Al Kantz. Vos réactions, vos suggestions, vos témoignages, des histoires qui vous sont arrivées, que vous avez envie de nous raconter, de partager, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook à la page Les Pieds sur Terre France Culture ou bien sur mon compte personnel Twitter. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture, bien sûr, et je vous retrouve demain à 14h30 pour Les Pieds sur Terre, quartier d'été.